9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running.
Le monde ne suffit pas.
Après la géopolitique dans cette première partie, je vous l'ai dit, on va maintenant partir en Grèce, essayer de comprendre ce pays et cette culture qui, loin des clichés, est à la fois vivante et très surprenante. Toujours avec vous, Sophie Kohavou. Je le rappelle, vous êtes maître de conférence en grec moderne à Lyon 3. Et c'est le cinéma qui va d'abord nous intéresser, puisque le cinéma grec contemporain connaît un important renouveau depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et on va commencer par écouter une bande d'annonces.
Την ιστορία αυτή δεν την περίμενε κανείς μας. Ήρθε έτσι απροειδοποίητα, ξαφνικά. Ήταν η μέρα που η ζωή μας άλλαξε. Ήταν η μέρα που δεχτήκαμε την...
Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est la bande-annonce d'un film sorti en 1999, un film de Panos Koutras qui s'appelle L'attaque de la moussaka géante. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Panos Koutras, à qui on doit 4 longs métrages, donc L'attaque de la moussaka géante, c'était son premier long métrage. Il incarne justement un des aspects de ce renouveau du cinéma grec, parce que là c'est pareil, hein, quand on parle du cinéma grec contemporain, en général le seul nom qui vienne à la bouche des cinéphiles, c'était Angelopoulos. Ce renouveau, c'est après
Angelopoulos,
mais qui fait partie de la génération précédente qu'on appelait le nouveau cinéma grec.
Donc la génération de Mélina Mercouri.
Voilà, bon, après plus récemment, hein,
oui,
puisque
d'accord.
Je ne sais plus précisément quand est-ce qu'il est mort, mais relativement récemment. Et donc, cette nouvelle vague, alors moi, je ne vais pas prendre une nouvelle vague parce que pour la terminologie, ça fait des recoupements qui ne sont pas toujours très éclairants. Mais donc, Panos Koutras, il fait partie notamment d'un collectif qui s'appelle FOG, Filmmakers of Greece,
oui.
Donc cinéastes dans le brouillard, qui s'est constitué en 2009 et qui justement voulait rompre avec la tradition du cinéma sur tous les plans, hein, c'est-à-dire aussi bien réviser le cadre structurel et législatif de leur secteur que une production, enfin des réalisations sur leur thématique et leur forme complètement différentes de ce que le cinéma grec connaissait jusqu'alors.
Et à même de réfléchir sur la société grecque contemporaine.
Et à même de réfléchir sur la société contemporaine dans sa réalité, donc avec ses failles,
oui.
Et avec justement, hein, les thèmes de prédilection vont plutôt puiser dans les marges de la société grecque et dans la question des minorités, hein, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit sur les questions ethniques ou sexuelles. Pour justement sortir d'une vision idéalisée d'un hellénisme c'était cet hellénisme-là qui était essentiellement relayé par le cinéma grec jusqu'alors.
Et alors l'attaque de la moussaka géante.
Alors l'attaque de la moussaka géante, effectivement, bon, c'est devenu maintenant une sorte de nanar culte,
oui.
pour les adeptes du genre. C'est donc son premier long métrage qu'il avait réalisé avec les moyens du bord à l'époque, hein, parce qu'à l'époque évidemment il n'était pas connu. C'est vraiment un mélange de genres, parce que c'est à la fois une parodie de série Z, donc c'est complètement loufoque. Il y a aussi une filiation avec Ed Wood. Une filiation aussi très nette avec John Waters, notamment le personnage de Divine, de Pink Flamingo, hein, qu'on retrouve. Il y a un clin d'œil, me semble-t-il, dans l'attaque de la moussaka géante. Donc un parti pris, queer, kitsch, culture camp, etc. Avec un scénario improbable. Bon, je pense que...
Le
titre est assez parlant. Et je pense qu'il résume à lui tout seul le pitch du film. Donc c'est une portion de moussaka qui, par l'intervention... Alors, j'ai pas exactement compris comment ça se passait, mais enfin, par l'intervention d'une soucoupe volante, se transforme en monstre sanguinaire, en monstre géant, qui envahit les rues d'Athènes et tue tout le monde sur son passage. Voilà.
En tout cas, c'est un film qui vaut le coup d'œil. Je vous engage à aller voir la bande-annonce et à essayer de voir le film en entier parce que c'est tout de même assez drôle. Alors, vous disiez que ce cinéma grec s'intéressait beaucoup à la question des marges, des minorités, quelles qu'elles soient, qu'elles soient sociales ou sexuelles. Et dans un tout autre style, on a un film qui pose ces questions, un film qui s'intéresse à la difficulté d'être grec. Quand on vient d'ailleurs, c'est Garçon d'Athènes, un film qui est sorti en 98 et qui a été réalisé par Kostadinos Yannaris. Alors, Garçon d'Athènes, c'est un registre complètement différent.
Alors, c'est un registre qui est effectivement complètement différent, puisque il prend davantage la forme du docu-fiction. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que le réalisateur, donc Yannaris, a trouvé les protagonistes du film sur la place Omonia, donc une des grandes places du centre d'Athènes. Et il a trouvé effectivement des Grecs, ces jeunes Grecs originaires du Kazakhstan, et il leur a demandé de jouer leur propre rôle.
Et donc c'est un film qui s'intéresse, à ces Grecs du Kazakhstan, à ces Grecs du pont, que l'État grec tente de faire revenir. Ils reviennent en Grèce, mais ils ne parlent pas la langue, pas très bien, voire pas du tout, et ils sont pas du tout intégrés dans cette culture. Et donc c'est un film qui s'intéresse à cette difficulté d'être grec, mais d'être un grec un petit peu de seconde zone, finalement, dans la Grèce contemporaine.
Oui, c'est exactement ça. Et en fait, on voit à travers ce film les contradictions entre, d'un côté, ce qu'on appelle l'hellénisme œcuménique, hein, et qui justement prévoit notamment des conditions favorables à ce qu'on appelle le rapatriement de ces Grecs du Pont Euxin, qui sont considérés en Grèce comme des homoyénis, donc de la même race, littéralement. Oui. Et pour les réintégrer dans ce qu'on pense être la mère patrie. Et Yannaris, justement, fait un contre-récit de cet hellénisme œcuménique en montrant ces jeunes garçons qui ne trouvent absolument aucune place dans l'Athènes contemporaine. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun repère identitaire, que ce soit la question sur le plan de la langue, sur la question de l'identité ethnique, de l'identité religieuse, de l'identité sexuelle. Hein, et ils sont vraiment en prise avec... Enfin, leur vie, c'est une suite, c'est une réalité sordide.
Parce qu'ils vivent de larcin, de prostitution.
Prostitution, larcin. Eux-mêmes participent à des réseaux de prostitution. Donc ils sont à la fois victimes et bourreaux. Enfin, c'est un film qui est extrêmement violent, mais qui rend compte d'une violence qui fait partie intégrante de la réalité. Et d'une réalité qu'on n'a pas toujours regardée en face.
Qu'on ne voit pas toujours. Alors, un autre film qui aborde toujours ces questions de marge et de minorité, c'est encore un film de Panos Koutras, mais plus récent, celui-ci, qui date de 2009, c'est Strella. Alors, Strella, c'est un film qui renverse complètement les normes de la société, les normes familiales, et vous dites, à travers le mythe d'Oedipe. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce que ça raconte, Strella ?
Alors, bon, tous ceux qui n'ont pas vu le film et qui souhaitaient le faire vont me détester si je vous raconte le film. Alors, effectivement, c'est une sorte de reprise du mythe d'Oedipe, mais transposée dans l'Athènes contemporaine, dans le milieu trans athénien, avec un personnage clé qui est d'ailleurs porté par un acteur extraordinaire, donc Strella, qui va rencontrer celui qui va s'avérer être son père, et avec qui elle va vivre une histoire d'amour. Oui. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, d'amour dans tous les sens du terme. Oui. Donc effectivement, sujet ô combien audacieux, surtout dans la Grèce contemporaine,
qui attendent mal avec... très orthodoxe et qui est une société très patriarcale.
Voilà, très patriarcale, où l'Église et l'État ne sont pas séparés, et où la question des minorités sexuelles est encore très problématique.
Hein, oui.
Très problématique.
Et donc, c'est un film qui renverse complètement ces normes de la société, qui joue aussi avec ces normes, d'une certaine manière, et en jouant avec le passé antique, avec ce mythe d'Oedipe. Vous avez écrit un article sur l'action et vous dites qu'on retrouve finalement tous les personnages de la tragédie Sophocle.
Oui, on peut faire une sorte superposer un calque pour retrouver ce mythe antique. Après, Koutras, ce qui est intéressant, c'est que il y a vraiment une sorte de réflexion avec des références pas uniquement antiques. Il y a aussi une référence, ne serait-ce que dans le titre, au cinéma grec, à des personnages emblématiques comme comme Mélina Mercouri.
Oui, parce que Strella, c'est une référence à Stella, avec Mélina Mercouri.
Avec Mélina Mercouri. Et donc, ce jeu en fait, de clin d'œil avec l'histoire grecque, et notamment ce passé antique, en général, il le malmène. Hein. Dans Alice in Isoïe, son deuxième long métrage, on voit l'Acropole en feu.
Oui, ce qui est tout de même une image très forte.
Donc, sans rejeter la Grèce antique, ce qui rejette davantage, c'est cette vision absolument idéalisée de cette Grèce antique et qui ne laisse absolument aucune place à la Grèce contemporaine. Enfin, à la Grèce dans sa continuité, à la Grèce d'aujourd'hui.
Et à la réalité de la Grèce d'aujourd'hui.
Voilà.
Et alors, parmi les minorités non grecques, en Grèce, il y a la minorité albanaise et un autre film, un film de Philippos Tsitos qui est sorti en 2009 et qui s'appelle L'Académie de Platon. Donc, encore une fois, on voit tout ce jeu de référence à, au passé antique idéalisé. Mmh. Alors, ce film-là, il est un petit peu plus léger. Et s'il évoque toujours le sort de sa minorité, c'est le sort de la minorité albanaise, mais sur un ton quand même beaucoup plus léger.
Oui, c'est plus léger parce que ça relève davantage de la comédie, même si ce n'est pas à proprement parler une comédie. Et là, la cible du réalisateur, c'est le nationalisme xénophobe, dont on a malheureusement entendu parler autour du parti Obdoré, Chrissi Avié. Et qui en propose justement une satire grinçante à travers... Bon, l'histoire est finalement très simple. C'est qu'il met en scène un grec quinquagénaire moyen qu'on pourrait qualifier de xénophobe ordinaire et qui découvre avec stupeur, comble de l'horreur, ses origines albanaises. Voilà. Et c'est à partir de là que vient se construire toute une réflexion sur, encore une fois, ce que ça voudrait dire d'être grec et sur la peur de l'autre, au sens littéral de la xénophobie. Hein. Et voilà, donc en reprenant justement toute une rhétorique de repli identitaire. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est cette xénophobie, elle prend corps, non pas à travers des espèces de figures diaboliques, diabolisées, mais là, ça, c'est vraiment la xénophobie ordinaire.
Ordinaire, oui. On le voit dans la bande-annonce du film, où on voit ces Grecs qui comptent combien de Chinois travaillent dans leur rue, combien il y a d'Albanais. Bon, c'est un regard assez grinçant, mais celui-là, c'est une comédie, et c'est un petit peu plus léger que Garçon d'Athènes. Ou Strella. Alors on pourrait parler de beaucoup d'autres films comme ça qui s'intéressent à ces minorités, qu'elles soient sexuelles, étrangères, à ces marges de la société. Il y a par exemple Xenia qui lui finalement conjugue un petit peu ces deux traditions, puisque c'est l'histoire de deux frères albano-grecs dont l'un est homosexuel et qui partent à la recherche de leur père grec dans le but d'obtenir une régularisation de leurs papiers.
Oui, exactement. Et c'est vrai que dans Xenia, on a effectivement une synthèse de ces différentes problématiques. D'ailleurs, moi, je vous invite à le voir, parce que c'est un très beau film, qui était passé à Lyon à sa sortie, puisqu'on a justement un mix de la question des minorités ethniques et minorités sexuelles, puisque en Grèce, l'Albanais, c'est la figure par excellence de l'altérité. Et donc, ces deux frères, dont la mère albanaise vient de mourir, cherchent, sans sur les traces de leur père grec, dans l'espoir de régulariser leur situation, d'obtenir la nationalité grecque, qui est identitaire, passage à l'âge adulte, etc. Et alors, en même temps, on a certes cette thématique extrêmement sérieuse, mais on retrouve dans le traitement la particularité du cinéma de Koutras, avec encore une fois des effets spéciaux, du kitsch, du camp. On est aussi dans la culture populaire, l'univers des jeux télévisés, des clubs bon marché, quand je parle des effets spéciaux, à un moment on a un lapin géant, des séances d'animation avec des petits animaux, donc on retrouve quand même un côté kitsch qu'on avait déjà dans L'Attaque de la Moussaka géante.
Et ce cinéma, quand il n'est pas explicitement dédié à des minorités de la société grecque, c'est un cinéma qui critique des aspects particuliers de cette société. Alors, on pourrait citer encore une fois plein de films, je pense à Canine. On a malheureusement pas trop le temps de s'y intéresser, mais tous ces films, on peut les trouver en France, un petit peu difficilement parfois, mais tout de même, ils se trouvent en DVD, donc n'hésitez pas, chers auditeurs, allez y jeter un coup d'œil. Alors, ce cinéma grec, on vient de voir qu'il était vraiment très inventif, à la fois critique et partie prenante de cette société dans laquelle il évolue aujourd'hui. Et cet angle de la périphérie, cet angle de la minorité ou de la marge, il s'avère très fécond pour les réalisateurs, il leur permet d'explorer les démons de cette société. C'est un cinéma qui est d'ailleurs reconnu à l'international, dans les grands festivals internationaux. Et cet angle de la marge, il n'est pas seulement pertinent pour évoquer le cinéma, il l'est aussi pour évoquer la musique. Il y a en effet un type, un genre en Grèce qui est profondément lié à ces milieux sociaux, non pas périphériques, mais marginaux, et je parle ici du rebetiko. Alors on vient d'entendre ici la voix de Sotiria Bellou, grande voix du rebetiko classique, entre guillemets, en Grèce. On avait entendu dans la première partie de l'émission Marcos Vamvakaris, autre, lui, grand maître du rebetiko. Alors on entend des sonorités un petit peu particulières, on entend ce bouzouki, cet instrument traditionnel grec. Le rebetiko, c'est une musique, là encore, à l'origine de la marge. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est le rebetiko ?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est compliqué au sens littéral. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, déjà, on peut dire le rebetiko ou les rebetika, hein, selon, parce qu'en grec, rebetika, hein, c'est le pluriel de rebetiko. Donc, ce sont des chants populaires des villes. On parle quelquefois, pour établir un parallèle, du blues grec, hein, donc qui s'inscrit dans une culture des marges. Alors, certes, c'est un genre musical, mais c'est donc une musique, des chants, mais aussi des danses. Hein, les trois vont ensemble. Alors, les origines du rebetiko sont liées aux origines du bouzouki, hein, l'instrument dont vous venez de parler. Origines qui sont assez controversées, selon qu'on les rattache à la tradition grecque ou à des racines plus orientales. Mmh. Et là encore, on peut facilement l'imaginer, des préoccupations, des préjugés idéologiques ont faussé le débat bien souvent sur ces origines. Alors, le nom même de rebetiko. Alors, on a déjà le mot de rebetis, le rebet, hein, celui qui joue, chante ou affectionne simplement le rebetiko. Rebetiko, eh bien, demeure assez obscur, hein, sur l'étymologie. On pense à une étymologie turque qui est sans doute la plus probable, hein, pour l'insoumis, le vagabond. Mais le mot est malheureusement intraduisible. Hein, oui. Intraduisible. Et effectivement, donc c'est rebetika, le rebetiko apparaît dans le contexte historique, social, démographique, très instable de la fin du 19e. Et dans les villes portuaires de l'espace hellénique, donc Nauplie, Athènes, Le Pirée, Smyrne, Constantinople, etc., dans des groupes sociaux marginalisés, donc vous l'avez dit, donc le prolétariat pauvre, petit métier, ouvrier, manœuvre d'une industrie naissante, des dockers, des déserteurs, des réfugiés, et aussi dans le milieu des mangues. Alors les mangues, ce sont des affranchis, hein, des petits malfrats, petits trafiquants, souteneurs, drogués, détenus, etc.
Donc ouais. C'est une musique liée à des groupes sociaux déjà marginaux, pour certains illégaux, donc ça a quelque chose de la contre-culture, tout simplement. C'est aussi une musique qui est liée, je crois, au milieu des fumeurs de haschich, avec tout ce que ça implique.
Oui. Alors ça, effectivement, si on veut reprendre l'historique du rebetiko, la première période donc, qui remonte au début du fin 19e, début 20e, c'est justement dans les fumeries clandestines de haschich, les tekeses, hein, tekes, ce sont ces lieux-là où on joue du rebetiko, où on chante les rebetika, ainsi que dans les prisons.
Oui, donc on est vraiment totalement lié à des milieux, tenant de la contre-culture. Et alors, on fait des bons historiques, malheureusement, mais on n'a pas trop le choix du fait du format de l'émission. C'est aussi une musique de résistance. Le rebetiko, c'est une musique qui a été interdite en Grèce, dans des périodes un peu particulières.
Alors, si on dit musique de résistance, il faut faire attention, parce que si on dit musique de résistance, on a envie de leur prêter un message politique.
Ce qu'ils n'ont pas
nécessairement. Qu'au départ, n'a pas le rebetiko, ce que la gauche, d'ailleurs, à reprocher hein, au rebetiko. Et même si une musique qu'on appelle aussi les laïcas, parfois la frontière est difficile à établir entre rebetika et laïca.
Les laïcas, c'est la variété, musique populaire.
Musique populaire, mais plus que variété. Alors quelquefois, rétroactivement, on a prêté une dimension politique des textes de cette chanson populaire qu'elle n'avait probablement pas au départ, en tout cas pas pour le rebetiko, puisque les thématiques, les chanteurs de rebetiko chantent, et les chanteuses, chantent d'abord leur quotidien, et donc les thèmes, c'est l'amour, bon, toujours malheureux, la prison, le hashish, la misère, la maladie, les rixes, etc.
Et le rebetiko, c'est loin d'être quelque chose de marginal aujourd'hui en Grèce. C'est une musique qui, depuis 15 ans, connaît également un renouveau assez important.
Oui. Alors, dans un premier temps, sans parler simplement des 15 dernières années, pendant longtemps, c'est une musique qui a été soit interdite, par exemple sous Metaxas, parce que c'était...
Metaxas, on est dans les années 30.
Sous la dictature de Metaxas, qui considérait que le rebetiko était étranger au génie grec, que c'était une musique dégénérée. Et donc, il a fallu quand même un certain temps pour que le rebetiko soit réhabilité, pour que la richesse de tout ce répertoire et de ses interprètes trouve tout simplement des lettres de noblesse aux yeux de la population dans son entier. Et ça a été d'ailleurs le fait de grands intellectuels et artistes, à peu près dans les années 50. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une musique qui est vivante. On a eu des grands chanteurs de variété qui ont repris du rebetiko, mais sous des formes quand même assez loin, cas pour les puristes, de ce qu'est vraiment le rebetiko à l'origine. Et il y a beaucoup de groupes de jeunes qui jouent en Grèce et ailleurs du rebetiko, et une foule qu'on ne peut pas chiffrer, mais de vrais amateurs qui fréquentent de simples bistrots ou qui, dans l'intimité de leur foyer, jouent du rebetiko. Donc c'est vraiment une musique, une tradition qui est vivante.
Et alors, donc, c'est une musique vivante, on va écouter du rebetiko moderne, contemporain, vivant. Sex, Drugs and Rebetiko, Stis Athina Stilomotin Omorphies. Donc là, un groupe franco-grec qui est finalement témoin de ce rebetiko vivant, qui est français, qui a un MySpace que l'on peut très facilement aller écouter, à défaut de pouvoir les voir en concert. Alors c'est fini, déjà, pour ce double numéro du Monde ne suffit pas, consacré à la Grèce contemporaine. J'espère que ce numéro vous aura donné envie de découvrir quelques-uns des films dont on a parlé, que l'on trouve, on vous l'a dit, un petit peu difficilement pour certains, mais que l'on trouve quand même. J'espère aussi que vous aurez envie d'aller écouter un peu de rebetiko. Mais surtout, j'espère que vous aurez envie de découvrir la Grèce, au-delà des clichés, des ruines et des lieux communs que l'on trouve malheureusement encore trop souvent en Occident. Merci Sophie Coavou pour ces deux émissions avec nous.
Merci Clément.
Et merci à la régie, Manu à la technique et Mathias au jingle. Et moi je vous dis à très bientôt sur Transistor. Panda